dernière de l'année. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Dutrisac.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
C'est la dernière émission de la saison, et pour cette dernière émission de la saison, je voulais faire une revue de l'actualité de l'année, un peu discuter tranquillement de l'actualité de cette année avec quelqu'un que j'ai pu rencontrer il y a 2 semaines lors du party de fête de Québecor, avec qui j'ai probablement discuté, je pense, pendant quasiment une demi-heure, et c'était vraiment intéressant. On s'était promis un peu de se revoir, soit pour un dîner ou pour un dîner et pour aussi une émission, que ce soit chez lui ou ici. C'est Benoît Dutrisac. Bonjour Benoît.
Ouais, ça va?
Ça va bien et toi?
Ah oui, ça va.
Bah, on va parler avec. Je vais parler avec toi un peu d'actualité, juste pour rigoler un peu, ou surtout pour,
bah oui,
pour plaire aux.
Ça aux... règle rien, paraît-il.
Ça règle rien,
non,
mais
non,
c'est
non.
Toujours sympa de revenir sur tout ce qui s'est passé. Oui. Et il y en a eu des choses cette année.
C'est long, un
c'est
an.
Long. Bah, ça passe vite.
C'est fou, hein?
Ça passe vite, mais c'est ouais. Super. C'est
ça
super
passe long. Vite, mais est-ce qu'on retient ce qui s'est passé en janvier? Cette année, les camionneurs à Ottawa,
ouais,
ça nous a frappé.
Et après, on a eu la guerre directement pendant que les camionneurs étaient encore
ouais,
là.
Ouais.
Je me rappelle, la première semaine de la guerre, et ça me rappelle parce qu'il y a 2 semaines, j'ai lu le livre d'Hélène Buzzetti sur l'extrême centre.
Ouais, ouais.
Elle en parle. La première semaine de la guerre, les camionneurs sont toujours là, et t'as certains chroniqueurs qui font les références en mode vous faites votre convoi de camions pendant qu'il y a des gens qui meurent en Ukraine, où sont vos priorités?
Non, mais si vous voulez livrer un combat, on vous en prie, allez en Ukraine.
Allez en Ukraine.
Ils ont
besoin de personne pour affronter
ben oui,
la Russie.
Si vous voulez vous battre, soyez les bienvenus. T'sais.
Mais quand tu vois par rapport, c'est une année folle parce que ça a été. C'est de plus en plus, j'ai l'impression, depuis que la COVID est là, en fait, on a l'impression que l'année, surtout la manière comment elle est traitée, c'est juste une succession de cycles qui s'entrevauchent. Et est-ce qu'on arrive à voir où ça en va?
C'est une succession de mauvaises nouvelles. C'est comme donne-moi. Julien, une bonne nouvelle de 2022.
Le chèque de 500$ de la CAQ.
Ben, même pas.
Non, je rigole.
Même
c'est
pas.
C'est une mauvaise nouvelle pour l'inflation.
Ben,
parce qu'on
va
on va directement la dépenser.
Ben oui.
On remet l'argent directement dans l'économie.
Ben oui.
Alors que normalement, il n'y a pas d'offre.
Ben oui.
Ça augmente la demande, il n'y a pas d'offre et ça augmente les prix.
Et c'est la deuxième carte cadeau que le gouvernement
fait,
la CAQ envoie. Ça,
ouais.
Ça vaut 6,7 milliards. Imagine ce qu'on aurait pu faire avec 6,7 milliards.
Imagine depuis le début de la pandémie, 6,7 milliards, on dit qu'il faut 1 milliard pour rénover les écoles qui c'est des labs qui ont des problèmes soit de particules fines, air dégueulasse et
ouais,
tout.
Ouais.
Check 1 milliard, il te reste 5,7 milliards
ouais,
à
ouais.
utiliser dans ton
tu
cadeau.
Tu veux parler d'autonomie alimentaire,
ouais.
Le beurre est 6,50 $ la livre.
Quoi.
Êtes-vous fous?
C'est n'importe quoi.
Les laitues, sont 5 $.
Ça vaut plus cher d'acheter du beurre que d'acheter un paquet de capotes.
Oui.
Non, c'est ça. C'est...
Mais tu veux pas faire la même chose. Avec les deux.
Ouais.
Quoique, dans le dernier tango à Paris, quand elle dit « passe-moi le beurre, passe-moi pas d'autre chose », c'était bref, excusez-moi pour la référence. Mais bref, c'est beaucoup d'argent.
C'est ça.
Envoyé en électoralisme.
Surtout la manière comment ça a été présenté, tu te dis qu'on est en 2022, on a dépassé le duplessisme, mais la manière comment ça a été présenté, c'est 2 semaines avant le déclenchement d'élection, c'est si vous me réélisez, je vous fais un chèque.
Ben oui.
C'est un peu comme si Duplessis, si vous m'élisez, vous aurez un congélateur à frigo chez vous.
Ouais, ou je vais paver la route devant votre maison.
Totalement.
Moi, je suis très, très déçu, très déçu. Tu sais, François Legault, c'est un comptable, c'est un gouvernement de gens d'affaires, puis je me dis, ils vont innover. Tu sais, les laitues, là, pourquoi avec 5,7...
Il nous en reste
5,7 milliards.
Ouais.
T'en as enlevé 1 milliard, puis les écoles sont réglées.
Mm.
Ça, c'est réglé. Il te reste 5,7 milliards. On n'aurait pas pu construire des serres.
Pour l'autonomie alimentaire, il y a
ben
aussi...
Oui.
On parle cette année de violence. Cette année, c'est la grande épidémie de la violence à Montréal.
Ben oui.
On travaille tous les deux pour Québécois, pour travailler côté journal. Nous, à chaque fois qu'il y a des fusillades, c'est alerte, article.
Ouais.
On rend captif les lecteurs avec ça, parce que les lecteurs en demandent, ils veulent savoir. Après, tu vois les chiffres, tu vois que c'est beaucoup moins grave qu'il se passe à Toronto ou dans les villes anglaises, mais ça, on en parle peu, parce que ça nous a... Quand on s'analyse pour chez nous, on n'a jamais vu ça depuis la guerre des motards.
Mais on veut pas ça.
Et on veut pas de ça.
On
n'est pas
ça.
Cette société violente telle que sont les États-Unis. Mais quand on en vient, il faudrait... On analyse un peu tout ça, tu te dis, avec la pandémie, il y a une hausse de la circulation des armes, Montréal est un peu devenu un asile à ciel ouvert dans certains endroits. Je pense que tu le vois quand tu vas à Cube Radio le matin avec la rue Sainte-Catherine à côté. Il faudrait 500 à 750 millions. Regarde, 750 millions, le 0,7, pour régler le problème de la santé mentale dans les rues.
OK, donc maintenant qu'on a mis 1 milliard pour l'autonomie alimentaire, le 700 millions qui reste va là,
ouais.
Il nous reste 4 milliards.
Même plus, 5 milliards, il nous reste.
Non, non, mais, déduit le 1 milliard pour l'autonomie alimentaire.
Ça, oui.
Disons qu'on on vire fou, puis on se fait un Disney World de la laitue, de concombre, de tout ce qu'on a, on a besoin de manger.
On dit l'écologie, l'environnement. Donc là, on s'en vient à l'environnement, il faut la transition écologique, permettre aux gens d'avoir... Il faudrait 1 milliard à 1 milliard et demi pour électrifier les transports, permettre un meilleur transport en commun, de vraies politiques, et pas la ligne bleue du métro, qui ça fait 30 ans que ça existe, mais les bus...
Il
t'en reste 2,5. C'est énorme, 2,5.
OK, 2,5. Qu'est-ce qu'on fait avec le 2,5? Là, la santé et l'éducation.
La santé.
Alors là, t'as 2,5 milliards.
Il y a déjà du 4 milliards qui est prévu par Dubé pour la santé. Tu en rajoutes 1 milliard peut-être pour optimiser les programmes qui sont déjà prévus ou aller chercher
Julien,
sur les programmes qui existent déjà.
On peut-tu mettre juste un peu d'argent pour la qualité des repas?
Totalement. Et j'en reviens à ce que tu as dit cette semaine avec la dame la nutrition. Ça n'a pas de bon sens.
Scandaleux.
Ça n'a pas de bon sens.
Scandaleux. Et il n'y a personne. Moi, je te garantis, Julien, fais un vox pop. Tout le monde qui est passé par l'hôpital a une histoire d'horreur à raconter.
Et je peux te faire un exemple. On dit souvent que pour pouvoir traiter quelque chose, il faut avoir un peu vécu cette chose. Je viens du droit au départ, pendant que ma réorientation dans le journalisme, l'année dernière. Parce qu'il fallait que je bosse, il n'y avait plus de PCU ou trucs comme ça. J'ai contribué, mais avec une autre plateforme, où j'ai été préposé aux bénéficiaires dans une ressource intermédiaire. Une ressource intermédiaire, c'est les ressources, pas CHSLD, mais c'est vraiment les ressources pour des personnes qui sont en manque d'autonomie. Ça, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle le carrefour de la triade, qui est un regroupement de ressources intermédiaires sur l'île de Montréal pour les personnes handicapées depuis la naissance ou handicapées à cause d'accidents, grands brûlés, renversés par des voitures, électrocutions graves. Ils perdent toute autonomie ou presque. Ça peut même aussi des problèmes d'handicap mental et pas du handicap physique et moteur. Les repas qu'on leur faisait, on avait des menus qui étaient faits par des nutritionnistes, mais des nutritionnistes, certes, choisis par le gouvernement, mais les repas qu'on leur faisait, c'était des vrais repas. Parfois, on avait certaines préposées qui allaient leur faire des vrais repas haïtiens, avec le vrai bœuf, la vraie bonne bouffe que tu veux, quand ces personnes payent beaucoup d'argent à l'État, les familles payent énormément d'argent à l'État pour que ces personnes puissent avoir des professionnels qui s'occupent d'eux, pour qu'on puisse s'occuper d'eux. C'est pas normal que dans un CHSLD, si la famille paye de l'argent à l'État pour qu'il ait au moins une bonne décence, une bonne qualité de vie jusqu'à sa mort, on leur offre une purée dégueulasse.
Mais oublie pas qu'à l'hôpital, on a payé. On a payé par taxes et impôts.
C'est ça.
On n'arrête pas de payer. Et quand vient le temps d'avoir des services, tout à coup, il faut prendre un numéro et se mettre en ligne.
C'est ça.
À un moment donné, ça suffit.
Et encore, il faut prendre un numéro. Il faut attendre 4-5 heures avant qu'on te dise...
Qu'on te dise où aller te mettre en ligne. Parce que là, tu ne passeras pas.
Oui, non, c'est ça.
Non, tu fais la file pour te mettre en file.
Non.
C'est scandaleux. Et qu'on justifie ce genre de repas. Ma mère l'a vécu. Ma femme l'a vécu à deux accouchements. On lui a servi des pelotées de sauce brune.
Je l'ai vécu l'année dernière pour des graves problèmes de santé que j'avais eu, où j'avais été à l'hôpital pendant quelques jours. Et c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
Même en prison, ils doivent avoir des meilleurs repas que ça.
C'est quoi? J'ai vérifié. Le budget pour chaque assiette en prison est $3,27. Et on m'a dit... Moi, j'avais $2,14 pour une assiette à l'hôpital. Et il y a une infirmière de Sainte-Justine qui m'a écrit, nous, on avait $1,60 comme budget. Alors... Faisons juste
en France,
un
c'est
flip.
3,50€.
Mais faisons juste un flip. Servons ce qu'on sert à l'hôpital dans les prisons.
Ouais.
Et servons ce qu'on sert dans les prisons.
Voyons voir qu'est-ce qui va se passer après.
Ouais. Combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait des émeutes.
Ouais.
Et là, ça va changer. Ou on nourrit Christian Dubé et tout son cabinet avec de la bouffe d'hôpital pendant un mois. Jusqu'à temps qu'il constate que
c'est dégueulasse.
C'est pas mangeable.
Il y avait un truc, Gaëtan Barrette, je me souviens, pendant quand il était ministre, il y avait eu l'histoire de là où il était allé, il avait dit c'est dégueulasse et tout. Finalement, on voit qu'il n'y a rien qui a changé.
Non, il a fait un spectacle, un show de boucan, où là, il se faisait servir des
chinois,
repas
ouais,
avec des gants blancs. Puis c'est tout ça.
C'est que de la com. C'est qu'à la fin, t'as des politiques, il n'y a pas de fond. C'est ça qui est triste quand on analyse un peu la politique. Il y en a certains qui ont des projets qui apportent de bonnes choses cette année, tu vois, ou qui ont un background intellectuel qui est intéressant. Mais la majorité n'ont pas de fond. On a l'impression qu'ils sont là comme si c'était un simple job. Et c'est triste. Elle est où l'envie, le fait est, je vais être là, certes c'est un job.
Mais c'est des machines.
Je vais vouloir
Julien,
améliorer la
société. C'est des machines immenses à bouger. C'est des machines.
Je pense qu'on peut pas. Ils peuvent taper dans le gras.
Non, parce que tu as les sous-ministres, eux autres qui restent. Et les sous-ministres font la pluie et le beau temps.
Ouais.
C'est quel que soit le ministre.
Les Madame Savoie, par exemple.
Par exemple, ouais. Tu remplaces M. Bonnardel par Mme Guilbeault au transport. Tu remplaces Roberge par Drainville à l'éducation. Ou qui a vu la différence?
Ouais. Surtout quand, en plus, la majorité de la politique est faite au bureau du premier ministre. Ils reçoivent des lettres de créance, de mandat, qu'ils ont juste à appliquer à la lettre. Tout est marqué. C'est juste tu coches la case, t'as bien fait tel que c'est inscrit.
Ça le système marche pas. Puis là on voit, puis ça a été... C'est 2022, 21, 20, 19, nomme-les là.
À chaque année, ça revient.
Les bonnies au cadre de Monopole. Mm. Aujourd'hui, bonnies au cadre d'Hydro-Québec. Mm. Il y en a 1745. Mm. 1745.
C'est au-delà de 1745, c'est qu'on est en train de créer, à mon sens, avec ce genre de choses, une classe de déconnectés. C'est, on te dit...
C'est un monopole.
Une classe de déconnectés de la société. C'est, ils disent, non, mais tout va bien, Madame la Marquise. Pendant ce temps, les gens, on leur dit, soyez le ministre Fitzgibbon, mais faites attention à l'énergie. Une classe de déconnectés.
Faut se poser des questions sur ce qu'on appelle les gestionnaires, les cadres, qui sont censés tout régler. 400 cadres à Radio-Canada?
Ah, putain, cette histoire. 400 cadres. Pour la fête des cadres, où on avait un humoriste qui allait leur faire des blagues.
Pour remettre en contexte, si on peut
appeler ça des blagues. Ouais. Qui allait leur faire un spectacle humoristique de fin d'année, une sorte de partie de Noël pour les cadres. Et sa blague, entre guillemets, principale, c'était qu'il était étonné de se retrouver devant 400 cadres.
Ben oui.
400 cadres pour gérer une société où on a du mal, où on doit mettre maintenant un petit mot, vous allez peut-être débrousquer parce qu'il y a le mot en haine qui apparaît une seule fois dans l'article.
ils forment des comités, ils forment des réunions. Voilà. Ouais. Les cadres et les gestionnaires, moi, je pense qu'il faudrait commencer à revoir ça, à voir l'utilité.
Les politiques organisationnelles.
Ben, qui décide de quoi et qui est assis sur ses mains et à quel point la machine se protège elle-même?
Il y a moyen de faire marcher la machine sans qu'il y ait un cadre pour un autre cadre, pour un superviseur qui est supervisé par trois superviseurs et un référent. Il y a moyen de simplifier ça.
Mais personne de redevable, personne responsable, jamais. Une des nouvelles pour... on parle du Montréal métropolitain parce que c'est le cœur économique du Québec.
Ça.
La semi-fermeture du tunnel de la Fontaine, qui est improvisée, qui est faite n'importe comment. M. Bonnardel et le MTQ a dit quoi?
Ils avaient 4 ans pour préparer ça, même plus, et même le gouvernement d'avant.
Ouais.
Et tu sais, il y a des trucs qu'il faut se souvenir aussi sur le contrat du tunnel pont La Fontaine. Il est lié aussi au contrat du tunnel Ville-Marie. Les deux ont été faits en même temps dans les années 60. C'est des contrats qui sont liés avec tel type de carreau, des contrats. Donc, on doit aller chercher tel type de carreau pour respecter parce que ça a été fait dans le contrat des années 60.
Mais
aurais-tu pu modifier un peu ça pour aller plus vite?
Le tunnel. Les mêmes problèmes de congestion, avec la nouvelle céramique.
Oh, c'est magnifique. C'est comme le métro, on a refait les stations, mais en fait, on avait juste fait un peu de nouvelle céramique.
On ne change rien.
Ouais.
Et moi, ce qui me renverse, Julien, c'est qu'on a construit ça dans les années 60, avec une technologie des années 60, et ça va prendre à peu près le même temps, 3 ans.
Ouais.
Ça a pris 3 ans et demi à construire, ça va prendre 3 ans à rénover.
Ouais.
Avec la technologie du 21e siècle.
Ouais.
Alors, c'est comme quoi, on n'a rien appris?
Non, mais c'est la question, c'est où est l'adaptation? Est-ce qu'il y a de la fainéantise de la part du côté de certains gestionnaires, de la part de côté certains opérateurs? Est-ce qu'on a du mal? Est-ce qu'on se dit, ah non, mais parce que si on ne va plus vite, certains de nos contracteurs n'auront pas de travail pendant plusieurs mois, donc il faut étaler le contrat pour assurer les heures de travail, les choses comme ça. Mais le problème, il y a tellement de constructions à faire, tellement de boulot à faire, tu peux les trouver les contrats?
Ouais.
Donc là vient le problème, est-ce que les gens ont envie? Et c'est un peu l'année absolue sur l'envie et l'égoïsme, le moi-je au lieu du nous.
Mais aussi, le nombre de chantiers à Montréal qui sont ouverts et qui ferment jamais. On ouvre les chantiers, mais c'est comme on les ouvre tous en même temps.
Ouais.
Au lieu de l'ouvrir, de le faire, de le fermer... T'en ouvres un autre.
Mm.
Là, les entrepreneurs disent non, je vais ouvrir 10 chantiers, je vais étaler mes 10 contrats, mais j'ai pas assez de personnel pour travailler sur les 10 chantiers, donc ça va être un après l'autre.
Ouais.
C'est un peu la façon dont on travaille, là, avec laquelle on travaille au Québec, c'est un peu aberrant, puis on voit les résultats.
Et le truc aussi au niveau de toutes ces questions-là, c'est que ça, à la fin, ça provoque, c'est que les gens ils sont un peu énervés sur la route, et ça me permet de revenir un peu sur les dernières actualités. C'est que tu vois, ça bloque un peu les gens stannent parce qu'ils sont bloqués, ils en ont marre, ils s'énervent, ils deviennent égoïstes sur la route, ils ne pensent plus aux personnes qui sont à côté, et ça fait des comportements aberrants qu'on peut voir depuis le début du mois de décembre.
C'est ça, à Montréal,
c'est n'importe quoi. Ouais. C'est même, on dirait un pays de bananes à ce point-là, où on laisse les piétons se renverser comme ça.
Tu sais, le 6,7 milliards dont on parlait là, en carte cadeau, aujourd'hui, là, si tu veux partir de Montréal et aller en Gaspésie, par exemple, en train, ça serait impossible. Ouais. Il n'y a plus de transport. Là. En région, il n'y a plus de transport.
Pour venir d'Europe, c'est un truc honteux.
Ouais.
Là, tu pourrais investir. Je dis, oui, mais non, mais le Canadian Pacific, il possède les rails. Mais construis tes rails. Fais tes propres lignes. Ça, c'est un bon truc de Québec solidaire, d'avoir voulu proposer, et aussi du PQ, d'avoir voulu faire une vraie politique transport pendant la campagne, de proposer, on va construire nos propres lignes, nos propres compagnies, on a l'argent pour le faire, on peut le trouver, des taxes, on peut aller chercher des taxes pour inciter les gens à abandonner trop la voiture pour aller vers les transports. Tu peux créer les liaisons. Et quand on voit comment ça marche en Europe, comment ça améliore d'une, la fluidité sur les routes, mais aussi les intercontinentaux. Tu as les maires de l'UMQ qui, à chaque élection, te disent améliorer les connexions entre nos villes. Ça va améliorer la croissance de nos villes, nos rentabilités financières.
Le tourisme. On pourrait faire le tourisme autrement. On pourrait avoir un système ferroviaire qui fait le tour du Québec et à chaque gare, tu peux louer une voiture, on pourrait faire autrement.
C'est ça.
Mais on n'a rien, tout ça. Alors, t'es 6,7 milliards pour combattre l'inflation.
Ça vaudrait même pas, ça vaudrait 2 milliards à le faire. Québec solidaire avait...
Ça dépend à qui tu donnes le contrat.
Ouais, c'est ça le problème.
À quel crosseur tu donnes le contrat. Ça dépend toujours de ça.
C'est ça. Est-ce qu'il est ami? Est-ce que c'est un ami ou pas? Mais c'est quand même assez facile. C'est quand même des trucs. On en parle comme ça en faisant de la radio. Un peu comme ça. T'imagines que des fonctionnaires n'y ont pas pensé, peut-être dans une réunion? C'est de se dire, nous, on en parle comme ça en faisant de la radio, en parlant dans un micro pour s'amuser parce que c'est la fin de l'année.
Ouais.
Mais est-ce que des dictionnaires qui sont payés probablement 115 000 $ le contrat par an, est-ce qu'ils y pensent?
Il ne faut pas que tu sous-estimes la valeur des idées.
Ouais.
Et les idées, c'est une denrée rare.
Ouais.
Les bonnes idées, c'est encore plus rare. Et d'avoir des bonnes idées d'innovation, de l'audace, c'est pas donné à tout le monde. Et il y en a, ça avantage le statu quo, qu'on bouge pas la façon de faire, parce qu'il garde sa job, on remet pas sa compétence en question. Peut-être qu'il est complètement dépassé. Je comprends pas, je le répète, je comprends pas que ça prenne à peu près le même temps de rénover un tunnel que de le construire. Mmh. Avec 60 ans d'intervalle dans la technologie, ça me dépasse. Mais il n'y a rien qui se remet en question. Le ministère des Transports a dit « Trouvez-vous un plan B. »
Et l'autre...
Ça, c'est autrement dit « Démerdez-vous. »
C'est ça. Et je me souviens, on le voyait un peu tous les deux dans chacun de nos médias, mais les premiers jours, on était tous sur le terrain à voir. Cette personne a mis une heure et demie pour traverser. On est dans le bus qui traverse, le bus gratuit qui amène au métro à Radisson. Regardez comme c'est incroyable et tout ça. Les voilà les plans B. On a Madame Mère Sourire qui est à côté du tunnel qui dit « Prenez les transports en commun ». Et j'aime beaucoup, quand je suis arrivé, le surnom que donnait Pierre Falardeau à Madame David, Mère Teresa David. Et à cause de ça, j'appelle souvent Valérie Plante Madame Mère Sourire.
Mais tu sais, Valérie Plante, elle dit pour les chantiers, il y a 75% des chantiers qui appartiennent pas à la ville. Encore cette semaine, j'ai eu ça comme réponse de la responsable des transports. Puis là, je me suis dit, pourquoi la mairesse va pas à Québec et dire je veux la juridiction sur les chantiers, on accorde les permis, on va accorder aussi les permissions.
Et là, au pire, à partir de là, si tu dis ça coûte plus cher, là, tu pourrais justifier ta hausse de taxes qu'elle fait année après année, alors que les services de la ville de Montréal ne suivent pas, par le fait de dire on va hausser les taxes, parce que ça nous permet d'avoir plus de pouvoir gérer plus de compétences qui sont nécessaires pour fluidifier notre gestion et les temps mis sur les chantiers.
Mais tu vois, ça, c'est au Québec, là, mais tu sais, Julien, évidemment, là, tu sais, la guerre en Ukraine, les Iraniennes, le combat des Iraniennes, là, qui est extraordinaire. Il y a déjà eu deux exécutions.
Hier, heureusement, l'Iran a été viré du comité des femmes du Conseil des droits de l'homme. Il ne devrait même pas être dans le Conseil des droits de l'homme tout court. Ça n'a rien à voir des pays. Qu'on mette des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Qatar dans les pays des droits de l'homme. Qatar, je fais un article il y a quelques semaines sur comment ils utilisent la Coupe du Monde pour faire du prosélytisme religieux à outrance. Comment ils utilisent la Coupe du Monde pour un gay. Je suis homosexuel. Un gay qui va au Qatar, je mets Grindr pour trouver quelqu'un. Et autre, si c'est un Qatari ou si c'est quelqu'un d'un pays qui n'est pas occidental, c'est-à-dire faible au niveau du passeport, il se fait choper, il se fait mettre en prison ou en camp de rééducation pour ça. Et on laisse faire ça. On dit rien. Et on laisse faire la FIFA dire, la FIFA, si vous mettez un drapeau coloré, drapeau arc-en-ciel sur votre montre ou votre bandeau, carton jaune ou expulsion et tout. Mais on est, football is for everyone.
Mais on a ce qu'on mérite, tu sais. On est tellement des guidounes. Ouais. On est tellement prêts à, tu sais, pour l'argent, prêts à faire n'importe quoi. Il y a un documentaire extraordinaire, malheureusement, sur Netflix, que je déteste, sur la FIFA.
Oui, FIFA. Oui,
écoute, c'est pour comprendre comment...
À quel point c'est une organisation corrompue.
À l'os et au ballon. Ouais. C'est extraordinaire, la corruption, sans gêne. Mais sans gêne. Et tu vois pourquoi la Coupe du Monde s'est ramassée au Qatar au lieu que ce soit aux États-Unis.
C'est ça. C'est... Et qu'ils l'ont donné après aux États-Unis en 2026 pour calmer les poursuites judiciaires.
C'est ça.
Ouais. Que, donc, c'est la guerre politique. Ouais. Et t'as le Qatar, donc t'as la guerre en Ukraine qui continue. On est en mode, quand va-t-elle terminer? Ça va se terminer. On était en mode aussi, beaucoup de personnes qui commençaient à se lasser. Ouais, mais les aides, à cause des aides, on paye plus l'épicerie et autre chose. Moi, je suis en mode, quand je vois ce genre de réaction, je me dis, mais si vous laissez tomber l'Ukraine, à quoi sert la valeur, quelle est la valeur de notre système, de notre démocratie? Et après, on laisse des personnes parler, te sortir leur mode, ouais, mais en aidant l'Ukraine, on aide une cabale pédo-satanique. Qu'on laisse ce genre de personnes parler, apparaître. Ouais. On va prendre l'exemple, c'est en Paris, les camionneurs, on allait interroger des cerveaux malades pour essayer de les comprendre et tout. Il y a bien un moyen d'ouvrir le micro pour permettre de ne pas faire croire que. On est en mode, non, on veut vous ignorer et tout, parce que vous êtes fous. Mais de l'autre côté, quand ça sort ce genre de choses, quand ça justifie ce genre d'atrocité, ce genre de crime, où est le discernement? C'est un peu l'année où, quand on suit l'actualité internationale, beaucoup de personnes se recroquevillent un peu, un peu comme un sentiment trumpien, se recroqueville sur toi, un peu égoïste, sans discernement, sans raison.
Mais je peux comprendre aussi, parce que l'Ukraine, c'est loin. Ouais. Puis tu sais, le courage, c'est facile.
Ouais, c'est facile de le dire, mais il faut le faire.
Mais envoie ton fils se battre là, et mourir peut-être pour la cause.
Reste en Ukraine pendant que ta fille se fait renverser à Montréal.
Ouais,
c'est horrible.
C'est tout
c'est
ça.
C'est l'inverse. Hein.
Non, ouais. Alors, tu sais, il n'y a pas de solution facile. Puis, tu sais, talk is cheap. Hein.
C'est ça.
Fait qu'on est assis ici, puis on a toutes les solutions. Mais aller sur place, comment tu gères un malade comme Vladimir Poutine? Comment tu gères ça? Tu le fais assassiner?
C'est la question. Et en plus, la CIA, surtout, qui t'appelle Vladimir Poutine, qui dit si vous balancez la bombe atomique, on vous fait assassiner. Ah, c'est-à-dire qu'ils savent comment le faire assassiner.
Ben oui, mais
pourquoi faites-le.
Mais faites-le avant
qu'il appuie sur le bouton.
Ben, me semble. Ouais. Pour sauver.
Surtout, ils savent tout à l'avance, depuis le début.
Mais tu sais, on ne peut pas appeler à l'assassinat de quelqu'un. Ben oui. C'est indécent, c'est insensé. C'est mais si on avait eu la chance de le faire avec Hitler avant la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on l'aurait fait?
Savoir comment la guerre s'est déroulée.
Ben oui.
Probablement.
Et les 20 millions de morts en Russie, les 6 millions de morts juifs, les gays, les communistes.
Les tziganes, etc.
Alors, est-ce que tu dis, est-ce qu'on attend ça? Qu'est-ce qu'on attend? Puis si on le fait avec lui, est-ce qu'on le fait avec l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'on le fait avec la Chine?
Ou de que devient la limite? Et surtout,
qui décide de le faire?
Quand on voit en plus la moralité. Des raisons de combat, parce qu'on nous dit l'Ukraine défend la démocratie, son système, mais en fait, en vrai, ils défendent leur droit de vivre. Il suffit juste d'aller sur Twitter, voir les comptes qui juste répertorient simplement qu'est-ce qui se passe à la télé russe. La télé russe, c'est on combat contre l'antéchrist, on veut quand ils disent dénazifier les Ukrainiens, c'est les assimiler ou les exterminer, faire des procès staliniens, et non, on va pas se contenter de tout ce qu'on a pour l'instant.
Il n'y a pas de nazis chez les Russes, hein?
Oui.
Non. C'est tous des enfants de cœur et des scouts.
Ils sont magnifiques. Mais c'est ça. Et le dernier sujet, mais on n'en a pas parlé, mais c'est un peu. Toi, tu dis qu'il faut abandonner, ça ne sert à rien, mais c'est la langue française cette année.
Tu sais quoi? J'ai écrit un roman publié en 1997 que j'ai retrouvé, que je n'ai pas loin. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y a 25 ans, j'écrivais que la prochaine question référendaire. Je me souviens pas du mot à mot, là, mais si vous refusez d'être indépendant, si vous refusez que le Québec soit indépendant, le lendemain, 24 heures, le lendemain, le Québec devient unilingue anglophone.
Et c'est ça.
On arrête de perdre de l'argent. On est les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'on est, ça se passe en français. Toi, tu vas devenir multimillionnaire animateur de radio. Moi, il est trop tard. Ma carrière est finie. On va s'ouvrir sur le monde. Puis, il y a des fois, je me dis, entre un imbécile qui parle français et un savant qui parle anglais, lequel je préfère?
Moi, le truc qui me sidère totalement dans le débat, je viens de France, pour venir de France, c'est quand t'entends certains néo-progressistes, multiculturalistes qui vont me dire que vouloir protéger le français, c'est raciste.
Ben oui.
C'est ce genre de choses.
Mais on est des nazis, est des racistes, on est des xénophobes, des islamophobes, ça en est tous, Julien.
C'est n'importe quoi. Il suffit juste d'aller sur les réseaux sociaux, voir les quels points, mon Dieu, ce que vous faites là, cette semaine, Trudeau, qui te sort en plus, oui, mais pas Trudeau, Marc Garneau, qui te dit que nous sommes là pour empêcher le Québec de détruire sa minorité anglophone. Ouais. J'ai participé à un livre, il y a quelques années, de droit linguistique, avec Éric Poirier, des gens qui ont travaillé avec Simon Jolabarrette, sur les droits linguistiques en général et comment la protection du français doit rentrer, surtout à l'échelle canadienne. Et tu le sais depuis longtemps, vous le savez tous depuis longtemps, mais la minorité anglophone, c'est une fiction utilisée depuis le début pour faire croire que, non, c'est une minorité, mais c'est une majorité à l'échelle des pays. Il n'y a pas de minorité dans une province, c'est un pays anglophone avec une minorité francophone. Mmh. Le simple fait d'avoir fait gober à fur et à mesure de propagande, façon de parler, dans les 30-40 dernières années, ce genre de choses, et que maintenant, par, je ne sais pas, égoïste, discernement, ou juste je m'en foutisse parce que la bataille est perdue, on accepte ce genre de sottise qui est sortie comme ça, comme des positions électorales ou des positions politiques normales que des membres du PLQ, par exemple, même de QS vont sortir, c'est ridicule.
Mais c'est Quel anglophone a perdu quel droit, là? Ils ont un système de santé, ils ont des médias, des journaux, des télés, des radios, ils ont tout ce qu'il faut là, pour être heureux. Et j'ai déjà posé la question à Marlene Jennings, qui était à la tête du
Québec Community Network.
Non, non, le Québec Bashing, Community Groups Network. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre heureuse? Moi, j'aime pas ça, savoir que vous êtes malheureuse. Moi, je vous aime, j'aime les anglophones, je suis allé à l'école anglaise, moi, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut arrêter d'exister.
Quelle a été sa réponse?
Je ne sais pas. À ce jour, je ne le saurai jamais.
Ouais.
Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne sais pas ce qu'ils veulent de plus. Tu sais, ils ont des écoles. On a aboli les commissions scolaires en français.
Mais on leur a laissé pour eux.
Ben oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Tu sais, si vos télés anglophones sont plates, c'est pas de notre faute. Si vos lecteurs de nouvelles, lectrices de nouvelles sont ennuyeux, c'est pas de notre faute.
Ils préfèrent regarder Fox News que regarder leur
télé. Ah non, ils préfèrent regarder Global et CTV, tu sais, que regarder ce qui se passe au Québec. Parce qu'eux autres s'occupent du Canada, eux autres vivent au Canada, que de temps en temps, il y a une nouvelle au Québec, mais essentiellement, Canadian News.
Je vais prendre l'exemple parfait, c'est quand il y avait eu Guy Nantel qui était allé faire son Vox Pop devant Dawson, et c'était
similaire. C'est presque tragique.
C'est tragique. Ouais. Et ça sera un peu le mot qui caractériserait l'année 2022. C'est tragique.
Et malveillant. Ouais. Guy est malveillant. Il dit lui-même, il dit, moi, je suis malveillant. Je prends les pires, je prends les plus drôles. T'sais. Guy est là aussi, autant pour nous titiller, pour nous allumer,
mais
pour nous réveiller, que pour nous divertir aussi. Il fait un excellent travail.
Ben, merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec
nous. Merci à vous, M. Corona.
Ça a été gentil.
Ben, bonne année.
Merci, bonne année à toi.
2003 sera meilleur, soit-on là, pour tout le monde.
On l'espère pour tout le monde. Merci à toi, Benoît. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui, c'est tout pour cette année 2023. Une excellente année, j'espère, pour vous tous, chers auditeurs. On se retrouve après le temps des fêtes, une bonne petite pause qui va faire du bien, parce que malheureusement, le travail continue pour tout le monde, mais on a besoin quand même un peu de souffler. Donc on se retrouve début janvier. D'ici là, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes, un très beau Noël et une très belle année. À l'année prochaine, Julien Corona au micro, Valérie Fournier à la réalisation.